ondes poétiques. Au festival Voix Vive, à 7h.
Ondes poétiques, c'est un plateau de poésie, bien sûr, à 7, ici, à Voix Vive. C'est aussi un plateau radio, et c'est une émission radio qui sera diffusée sur les radios associatives. Je suis Laurent Keller, je suis de Radio Grille Ouverte à Alès, et cette émission sera diffusée donc sur les autres radios associatives qui participent à ce plateau, RPH, Radio Languedoc, Radio Aviva, Radio FM+, à Montpellier. Aujourd'hui, sur ce plateau de poésie et de radio, bienvenue à Isabelle Alentour et à Antoine Simon. Isabelle Alentour, alors vous êtes poète aujourd'hui, mais vous avez eu une carrière professionnelle en recherche médicale et en pratique hospitalière également. Vous nous en parlerez probablement de la manière dont cela nourrit votre poésie aujourd'hui. Antoine Simon, vous êtes animateur aussi sur ces plateaux de Voix Vive à 7. Vous êtes également membre du comité de coordination du festival et vous êtes poète. Certains d'entre vous, avez-vous vu déjà Antoine Simon à l'œuvre? Vous êtes un homme de parole. Finalement, vous avez publié assez peu. C'est un choix également et vous nous direz pourquoi. Et puis, derrière moi, la musique viendra de notre dos et face à vous, Artyom Gerayan, à l'accordéon, qui habite 7 et qui va accompagner en musique nos poètes aujourd'hui. Merci beaucoup Artyom, et je vous ferai signe, je m'effacerai pour qu'on vous voit tout de même un moment. Isabelle Alentour, je commencerai avec vous. Ce texte Macapansgat, on va en parler un moment. C'est inspiré justement d'une recherche archéologique. C'est un peu la façon dont vous avez démarré ce texte. Et puis vous passez à autre chose, mais à un autre type de recherche dans le temps, dans un caillou, un galet. Et ça vous inspire justement ce passage du temps, cette autre à laquelle une personne, une entité à laquelle vous vous adressez et qui vous répond. Et alors vous avez un jeu de ping-pong dans ce recueil où vous interrogez en vous mettant à la place de ce galet qui a vu passer du temps. Et qui il vous analyse, vous l'analysez aussi. Et il y a un jeu comme cela. Comment est venue cette idée d'opérer de cette façon-là?
Merci. Alors, en fait, ça s'est passé dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire, non, si je vous dis depuis le début, j'écris beaucoup à partir de ma sensibilité, de ma subjectivité, de choses que j'entends, qui me touchent. Je suis psychologue. Voilà, donc tout est empreint beaucoup de subjectivité dans mon écriture. Et un jour, je me suis dit, il y en a ras le bol, il faut que tu passes à quelque chose de très objectif. Donc, il se trouve que je collectionne les galets, j'adore ça, la texture, et je vois un galet sur mon étagère et je me dis, ben, je vais décrire ce galet. Je commence à écrire et puis ben, ça m'a rattrapé en fait. J'ai donné voix au galet et le galet s'est mis à parler et je me suis mise à répondre à ce galet. Et voilà. Et c'est dans. Et en fait, donc, quand je dis répondre, c'était. Dans la trame du livre, ce sont deux monologues au départ. Le monologue du galet qui, du haut de son étagère, comme ça, voit passer une femme dans la maison, entend dire plein de choses et comprend rien au monde. Et puis la narratrice qui aussi circule et puis qui un jour ramasse ce galet. Et puis petit à petit, Ces deux monologues qui étaient au départ indépendants se croisent et deviennent un dialogue. Et c'est un travail sur l'altérité, en fait, et la reconnaissance de l'autre. Qu'est-ce qui fait reconnaissance dans l'autre ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va lui donner sa valeur ? Et c'est dans le décours de cette écriture, en fait, que je tombe sur l'histoire du galet de Maka Pansgat. J'ignorais tout de cette histoire, en fait. Et c'est venu vraiment à point nommé. Je trouve ça très beau. Maka Pansgat, c'est effectivement un galet qui a été retrouvé par des archéologues en Afrique du Sud dans une grotte qui, il y a 3 millions 5 d'années, était occupée par nos anciens, très lointains ancêtres, les Australopithèques. Et la particularité de ce galet, c'était que il figurait les traits de manière simple d'un visage humain. L'autre élément particulier, c'est qu'on savait qu'il n'avait pas été sculpté de main d'homme, il n'en était pas encore à ce stade-là, mais qu'il venait d'une rivière située à plusieurs kilomètres de la grotte. Et donc les archéologues, les chercheurs ont déduit que c'est un australopithèque qui, dans la rivière, a eu le regard attiré par ce galet qui figurait grossièrement un visage humain, qui l'a ramassé et qui a décidé de le ramener dans la grotte auprès d'une sépulture, puisque c'est là qu'il a été trouvé. Et donc, dans le monde archéologique, parce qu'après, je suis allée me renseigner, enfin, il est très connu, ce galet de Maka Pansgat, et il est considéré comme le premier signe d'attention de l'humain au visage humain, et également comme le premier geste artistique et le premier geste symbolique, puisqu'il est ramené près d'une sépulture. Voilà.
C'est déjà, oui, cette recherche, c'est quelque chose d'assez étonnant, en effet. Dans ce livre, vous vous interrogez sur le passage du temps et sur... Voilà, il y a cette dichotomie entre le galet qui n'a pas les mots et vous êtes quelqu'un qui va justement chercher les mots. C'est une altérité assez profonde. Ce que je voyais un peu aussi, c'est cette histoire du double. Comment vous le relieriez avec ce qu'on vit aujourd'hui ou avec les réseaux sociaux? Nous avons aussi tous une deuxième personnalité avec laquelle on dialogue et qu'on s'invente. Est-ce que vous aviez un peu songé à cette autre forme d'altérité, cette autre forme du double ?
Je n'y avais pas du tout pensé en écrivant, mais j'entends ce que vous dites, de s'inventer presque un personnage qu'on met en avant sur les réseaux sociaux. Je le vis moi-même, ce sentiment. Donc non, j'avais pas ça en tête, mais ce que je peux dire, c'est que la narratrice reconnaît quelque chose dans le galet. Et en fait, il se révèle au fil du récit, parce qu'il y a quand même une trame narrative, il se révèle peu à peu qu'ils ont tous les deux quelque chose en commun, dans leur histoire, dans leur passé, et on le découvre au fur et à mesure.
Est-ce qu'on lirait quelques extraits ?
Oui. Alors, c'est un peu difficile parce que ce sont deux voix qui se croisent et se répondent. Je vais le lire. Donc, il y a souvent une page, c'est la voix du galet. La page suivante, c'est la voix de la femme. Je ne sais pas comment je peux le mimer. Tu veux faire le galet ? Allez, prends le micro. Donc toi, tu es en italique.
En italique. J'habite au centre de la pièce une étagère peuplée d'objets assignés à un ordre des choses sans référence ni conséquence, sans crainte de l'obscurité non plus.
J'ai traversé la chambre 10 fois ce matin. Les objets étaient là, comme d'habitude. De petites choses sans qualité assemblées par le jeu des mémoires. Il y a les rondeurs d'une poire en albâtre, deux bols tournés de main d'homme, un bouquet de lavande, des hectares de bleu et jaillissant au travers le ciel de la Latine. Là où naissent les histoires de la grande ourse, les soirs d'été. On y entend le décompte des saisons dans les arbres, les adieux tressés de paille, amour au dos d'une carte postale. Et puis, ce galet, rond et noir, parfait comme une goutte d'eau, disposé avec soin à proximité d'autres galets pour qu'ils lui tiennent compagnie en son absence. 10 fois ce matin, je suis passée à côté de lui. Il était là, sans être là. Moitié silence, moitié caillou, contingent, et pourtant parfaitement à sa place. D'une forme si simple qu'elle en devient indicible.
Recoupée autour de moi la troupe de mes congénères, qui couchait sur le flanc, qui appuyait contre une épaule amie, qui pelotonnait un peu plus loin, une place en creux. Sans doute il y a-t-il eu quelque chose un jour. Aujourd'hui, cela manque. Je suis installé juste à côté. On me reconnaît à ma couleur noire serpentine veinée de vert. Je viens de la marine de Négrou, côte ouest du Cap Corse. C'est là qu'elle m'a découvert un soir d'été.
Merci.
Le deuxième fois que l'on creuse, tu ne fais pas dans le galet.
Merci Antoine
Simon. Je n'ai pas vraiment égalé le galet.
D'avoir prêté cette deuxième voix. Ouais. Artyom Gheramian. Thank you. Merci. Antoine Simon. Alors, on cherche le micro. Ah, vous l'avez sur la cuisse. Ça, très bien. Antoine Simon, vous êtes animateur, vous êtes poète, mais aussi animateur pour d'autres poètes. Et c'est quelque chose que vous appréciez visiblement beaucoup, ce contact avec le public. Vous êtes un poète de la parole. Je vois qu'il y a quand même quelques textes qui ont été publiés.
Non, il y en a quand même beaucoup, mais je ne mets que les derniers dans la bio, parce que c'est pas la peine de mettre des listes. En fait, oui, j'ai longtemps dit que je préférais le public à la publication, parce que je suis dans une forme de poésie performance. Et c'est vrai que ça se prête au public, ça se prête en général moins à la publication. Mais je n'ai jamais refusé de publier. J'ai publié quand on me demande, et voilà. Et je continue.
Les mots, alors, dans la rue, dans les salles, c'est...
Dans la rue, pas trop, parce que la rue, c'est après, ça s'apparente au théâtre de rue. Donc, pas trop dans la rue. Éventuellement, comme ici, bien sûr, ici, nous sommes dans la rue. Donc, dans les festivals, éventuellement, dans les médiathèques, dans les librairies, dans les... Voilà. Plus dans les lieux dédiés, finalement, que dans la rue. Sauf à 7, où tout se passe dans la rue.
Alors, votre poésie, elle parle d'aujourd'hui, du vivant, de l'être au monde, d'être vivant et de participer au monde.
Oui. Je ne sais pas de quoi elle parle, en fait. Hein. C'est elle qui parle. Elle parle un peu de ce qu'elle veut. Pour moi, les mots sont une expression de la poésie. Le corps, la voix sont aussi des expressions de la poésie. Ce qui se passe entre nous, le moment où ça se passe, sont des expressions de la poésie. La poésie est partout et tout le temps. Elle n'est pas uniquement dans les mots. Donc voilà, les mots sont peut-être une expression privilégiée, mais une expression. Ma façon d'écrire, après, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire, souvent, c'est un mot ou l'entrechoc de deux mots qui crée l'écriture. Je ne force pas du tout l'écriture. Elle vient quand elle veut. Et quand j'écris, bon, je pense que je ne suis pas le seul à éprouver ça. Quand j'écris, j'ai l'impression que ça n'a pas de sens, que c'est complètement décousu. Et je suis le premier étonné en lisant de voir que ça tient. Voilà.
Est-ce que la fréquentation des poètes ici et de ces discussions
C'est obligatoirement enrichissant, oui. Alors, je ne sais pas si ça inspire l'écriture. La poésie, en tout cas l'écriture poétique, ça mature à l'intérieur, et puis un jour ça sort, et puis on ne sait pas quand ni comment, mais ça sort comme ça veut, encore une fois. Mais le fait est que fréquenter les autres, entendre les autres... Oui, ça inspire, ça apporte quelque chose en tout cas. Parfois ça confirme, parfois ça infirme.
Est-ce que justement la performance, la façon dont vous envisagez la diction de la poésie, le rendu de la poésie, vous avez trouvé des poètes, des pays, puisque à 7, on a la chance d'avoir des poètes qui viennent de tout le pourtour méditerranéen et de plus loin. Est-ce qu'il y a des scènes qui sont en avance, qui sont vraiment très développées?
Il y a beaucoup de poètes que j'invite justement dans la performance. Donc, évidemment, je les connais au préalable. Je sais à peu près ce qu'ils font. Alors, en principe, si je les invite, c'est parce que je les ai appréciés. Enfin, je les propose à Maïté Valesbeck, qui est la directrice du festival, et qui, en général, dit oui. Voilà. Donc, oui, ce que je propose, c'est parce que je les apprécie. Et en général, il m'apporte quelque chose, oui, dans un sens, dans un autre. Enfin, voilà, c'est difficile de préciser qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, mais ils m'apportent obligatoirement. Oui. Ben, de toute façon, tout apporte.
Là, par exemple, les auteurs, les poètes belges qui sont venus en force depuis quelques années maintenant, qui ont apporté beaucoup.
J'ai découvert la Belgique. J'ai cherché, j'ai vu, tiens, il y a un pays là. Et effectivement, Le fait est qu'ils emportent, ils emportent les scènes. Et c'est très visuel. Après, on peut rentrer dans les détails, dire est-ce que c'est de la performance, est-ce que c'est du théâtre de rue. Bon, là, on n'est pas là pour rentrer dans ces détails.
Est-ce que vous nous liriez un extrait de...
Alors, je vais commencer par lire un texte là, tiré de ce recueil. Parce que bon, j'ai eu envie de lire ce texte. Alors c'est pas performant là, c'est pas de la performance justement. Bon, par moment c'est bien d'être à contre-emploi. C'est un texte. Ça c'est un recueil que j'ai écrit pendant le confinement. Tous les jours je marchais. J'ai eu la chance d'avoir une cascade à 1,5 km de chez moi à peu près. Et je suis dans la campagne, donc je marchais tous les jours. Et tous les jours j'écrivais en marchant. Depuis que j'ai découvert qu'il suffisait de parler au téléphone et qu'il écrivait à votre place. Il n'y a même pas besoin de s'arrêter quand il vient des mots pour prendre le crayon, le papier, comme je faisais avant. Là, hop, on peut continuer à marcher et parler en marchant, c'est extraordinaire. C'est mon fils qui m'a montré ça, sinon je n'aurais jamais trouvé. Et donc, ce recueil a été écrit uniquement dans la marche et il a été publié à peu près 2 mois après.
Est-ce que vous voulez que je vous tienne le micro ?
Pour le temps de trouver, oui, merci.
Alors, pendant que vous cherchez, Antoine Simon, ce recueil est publié à La Rumeur Libre et il est disponible, La Rumeur Libre est présent au Village du Livre. On en parlera à la fin de cette émission.
Comme l'autre recueil aussi est à La Rumeur Libre. La poésie monte en moi par les pieds. À chaque pas, son mot. La poésie vient de la terre, à chaque pas. La poésie te pulse, t'investit dans sa danse rythme, magique, vaudou, vaudor. Nul lieu n'est singulier, tout te parle de toi, tout te danse, tout te danse. Chaque branche t'est familière. Sa vie, c'est la tienne. Les bruits du monde sont un chant labouré de pas tranquille. Ton regard se voit lui-même, car c'est lui. Tout autour de toi, les gens que tu croises sont toi, mais l'ignorent. Ils marchent fièrement dans ton sang et te paraissent parfois, parmi tant de pensées obscures, tant de gestes délibérés en sens inverse de ton pas qui fait monter le monde en toi comme une gerbe de flamme. Dansant au vent, tu t'agites dans le désordre qui n'est que l'ordre mal compris, mal obéi, quand toute chose est à sa place. La tienne, tes sens ne sont pas à l'affût du monde, ils sont le monde. Tes mots ne sont pas la représentation du monde, ils sont le monde. Les feuilles mortes sous tes pas sont livres ouverts, les arbres bordant le chemin sont livres ouvert. Le monde est un livre ouvert qui ne se donne pas à lire, car il est toi. Quelle incroyable sécurité d'être conscient d'être le monde et quel débordement d'amour. Je trouve que c'est un texte qui résume assez l'ambiance générale, parce que bon, tous les ans, je trouve une ambiance générale dans le festival. Et cette année, je trouve que... je n'ai pas fait exprès, hein, parce que le texte était écrit avant, mais plusieurs fois, j'ai entendu des histoires de choses qui montent par les pieds, justement, et l'amour a été prononcé plusieurs fois. Alors, je voudrais donner une définition de l'amour qui n'est pas la définition habituelle. Pour moi, l'amour, ça n'est pas quelque chose qui va vers ou qui vient d'eux. C'est un bain, un bain. Et quand on a connu ce bain d'amour, il est inoubliable.
Merci beaucoup, Antoine Simon. Je proposerai justement un moment musical pour cette dernière parole. Artyom Geramyan. Merci Artyom. Et Isabelle Alentour, on revient vers vous. Alors, votre dernier ouvrage, est-ce que c'est Bleu Nuit sans étoiles à la boucherie littéraire ?
C'est ça.
Voilà, donc c'est aussi disponible au marché du livre, aux places du Pouffre.
Oui, la maison d'édition, c'est la boucherie littéraire. C'est sur le festival. Et ma Capensgat, c'est la tête à l'envers. Sur le.
Je ferai un récapitulatif voilà. À la fin de cette rencontre. Oui. Alors, dites-nous un mot sur ce dernier ouvrage.
Alors, ce dernier ouvrage est un ouvrage qui me tient très à cœur. Je vais poursuivre dans la veine d'Antoine pour vous parler d'amour. Il a un lien avec un autre livre qui était mon premier livre publié. À la boucherie littéraire, justement, qui s'intitulait « Je t'écris fenêtres ouvertes ». Et c'était le récit, parce qu'il y a souvent une trame de récit dans ma poésie, d'une rencontre amoureuse. Et ce livre, donc, est un peu le pendant de... Je t'écris fenêtres ouvertes. J'ai souhaité qu'il soit republié à la boucherie littéraire, justement, parce que ça avait beaucoup de sens pour moi. Donc, il s'intitule Bleu Nuit sans étoiles. C'est malheureusement l'interruption brutale, on va dire, de cet amour. J'en lis quelques.
On peut, vous souhaitez le lire maintenant, oui.
Oui, c'est possible. Alors, le livre, il est constitué de très longs poèmes, de plusieurs pages qui sont un peu compliqués à lire dans le cadre de rencontres comme ça parce qu'ils sont longs. Ça prend du temps. Et les poèmes sont reliés, on va dire, par des formes brèves de petits poèmes. Et là, pour la rencontre, j'ai choisi de faire un panaché de ces petits poèmes. Et c'est ce que je vais vous lire là. Et je me suis trompée.
C'est vrai que dans le recueil que j'ai lu tout à l'heure, Macabans Gat, effectivement, il y a une progression en fait en dialogue, et c'est vrai que on chemine à la fois comme vous aviez cheminé sur ce chemin pour retrouver le galet. Et le récit finalement, c'est quelque chose qui a à voir avec les mots, qui fait progresser la poésie. Qui nous fait aussi avancer peut-être au lieu de stationner, de s'enquister dans la vie où l'on est. C'est quelque chose que j'aurais peut-être aussi voulu vous poser dans votre pratique hospitalière, le rôle que les récits de vie, que les mots que l'on place sur sa situation, sur parfois sa maladie, qui nous colle à une situation négative, et les mots peuvent parfois nous en sortir.
Absolument. Et effectivement, moi, ma pratique de thérapeute, c'est d'inviter les patients à mettre en mots ce contre quoi ils se cognent brutalement, ou ce dans quoi ils baignent depuis longtemps, ou des traumatismes qu'ils ont pu vivre par le passé ou plus récemment. Effectivement, c'est une invitation par l'écoute à faire des récits, parce que tout ce qui est récit, ben ça d'une part ça adoucit, mais ça humanise des situations traumatiques, des situations impossibles à élaborer. Donc c'est mettre de la parole, mettre des mots, effectivement. Et c'est vrai que la question des histoires, c'est je suis emplie de toutes les histoires. Je travaille à l'hôpital public, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Je rencontre des patients de toutes les couches sociales, de toutes les confessions religieuses. Et puis à Marseille, c'est large, c'est très brassé. Et je suis emplie des histoires de toutes ces personnes. Et voilà, tel que vous me voyez, je suis pleine de tout ça. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et c'est peut-être pour ça, oui, en effet, que j'ai tendance à mettre dans mes récits, dans mes poèmes, voilà, y a souvent un fil narratif, il y a un fil conducteur. Par exemple, quand j'écris, j'écris par contre en fragments. Je pars pas du tout avec l'idée d'avoir un point A et je vais arriver à un point Z. J'écris par fragments les choses. Et ensuite, dans un deuxième temps qui est souvent long, je réassemble tous ces fragments et il y a quelque chose d'une trame qui se dessine. Mais je peux pas dire que moi, je n'utilise pas pour ma poésie et les livres le terme de recueil. C'est-à-dire, c'est pas, je recueille pas des textes que j'assemble l'un après l'autre comme ça. Il y a un travail de continuité, pas dans le premier jet de l'écriture, mais après dans le travail d'assemblage des textes pour la construction du livre. Voilà. Bon, ben, j'ai pas retrouvé.
Bleu nuit.
Oui, j'ai, mais. Ok, je vais y aller comme ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Je vais rester assise parce que c'est long. Cette nuit, pour la première fois, je me suis déplacée du côté de ton lit. Les draps étaient frais. Dessous, il y avait un cœur qui bat. Voilà pourquoi j'ai crié. Je dors de ton côté. Le long de ce relief nouveau, la pesée de tes nuits. Mes seins de ce côté-là ne se pensent pas pareil. Ne se pensent, ne se rêvent pas pareil. Mes bras ne s'endorment pas pareil. Encerclés quoi ? S'éveillent si souvent déroutés de ce côté-là. Côté homme. Parce qu'évidemment, il y a le corps, son manque en excès, plus vrai que les mots, sauf peut-être ton t-shirt blanc col tunisien, son odeur pressée sur mon visage. Et encore, non, regarde, les mots ont laissé des trous dans le tissu. Il m'arrive encore, cherchant un cintre libre, d'offrir machinalement ta penderie et d'être arrêté net par une chemise débarquée de l'autre versant. Dans la poche, quelques fils de couleur et des bouts de papier, mais aussi un soupir amoureux et la flèche d'une odeur. Elle est fortiche, la mort, partout infiltrée, prête à jaillir à la moindre occasion. Au détour d'une nuit comme une autre, tu m'enlaces, me portes à la fenêtre, m'y assieds, et là, tu me, amoureusement, tu me, tendrement, tu me, puissamment, à m'en disloquer. Ce doit être ça, devenir infini. Alors, pendant que tu me tais, je salue l'autre moitié de l'éternité. Tu dors, mon amour ? Tu rêves de moi ? Baiser sur tes reins, je t'effleure. Tu restes muet, simulant le sommeil. Tu aimes ce jeu, toi aussi. Tu restes parfaitement immobile, mais tu es mort. As-tu remarqué, mon amour, je formule ça comme un paradoxe. Immobile, mais mort. Ce n'en est pas un. C'est simplement que je dis les choses comme si elles l'étaient, paradoxales. Tu es troublé, mon amour ? Ne crains rien. Tu peux te réveiller maintenant. Tu es mort.
Mon frère, j'ai un frère avec qui j'étais très lié, qui est mort en 2014. J'avais écrit un texte tout de suite après, je n'ai jamais pu le lire en public.
Merci.
Je t'admire d'arriver à le faire.
Merci beaucoup, oui, Isabelle Alentour, de nous avoir livré ces extraits. Donc, dans Bleu Nuit sans étoiles. Bleu Nuit sans étoiles, et c'est paru aux éditions La Boucherie littéraire. Soufflerai un moment musical avec vous, Artyom Gheramyan, à l'accordéon. On poursuit la dernière quart d'heure de ce plateau de poésie et de radio avec vous, Antoine Simon. Sur quoi avez-vous envie d'écrire quand vous démarrez c'est une situation, c'est un état d'esprit
Vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça vient. C'est toujours un surgissement, voilà. C'est toujours nouveau, c'est inattendu même. Je n'ai jamais dit, Victor Hugo, tous les matins, se levait à 5 heures et allait écrire debout pendant 3 heures. Ensuite, il prenait le petit déjeuner. Bon, moi, je suis absolument incapable de faire ça. Je n'ai jamais fait. Les choses viennent quand elles veulent et si elles veulent. Et je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est qu'après que je sais. Bon, par exemple, ça, alors, je ne vais pas dire au recueil. Cet ouvrage, donc, il s'intitule Le Petit Moi. C'est un personnage qui s'est présenté à moi. Voilà, j'ai eu 2-3 textes comme ça où le Petit Moi est venu. Et il a voulu continuer. Et donc, ça a fait un livre, et un livre basé sur le petit moi. Alors, je vais vous dire... Je veux le remercier parce que moi, j'ai eu l'occasion d'être invité à Erevan et j'ai adoré ce pays, vraiment. Alors, ça a été un pur régal. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas.
En Arménie, donc.
En Arménie. Donc, j'ai mis en exergue, donc, le petit moi, c'est notre plus petit commun dénominateur. C'est l'innocent que nous portons ou qui nous porte, capable d'incursions soudaines dans une conscience qu'il ne maîtrise pas. Alors c'est écrit très simplement, c'est parfois même en vers rimé. C'est vraiment, comme ça vient. Je vais vous lire, on n'a plus beaucoup de temps, donc juste un ou deux extraits. Hein. Le petit moi s'en va en guerre contre tout ce qui ne va pas. Or, Dieu sait s'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde, surtout parmi le monde humain. Le petit moi ne peut pas faire face à tout l'espace. Il n'a pas de tête, il n'est pas Janus. Alors, il partage la tâche avec d'autres petits moi et chacun se spécialise dans un domaine précis. Chacun met le monde en doute. Tout au moins une partie, se met à travailler dur pour améliorer sa vie dans le sens de son bien-être et celui de ses voisins. Mais parfois, le petit moi se trompe un peu de combat, juge mal son adversaire, se créant de faux problèmes, il se projette en avant contre des moulins à vent ou des murs indestructibles qui n'ont aucune raison de tenter d'être détruits. Mais les murs indestructible, c'est rudement résistant. Hein. Le petit moi, tout confus, se met à douter de lui, à se dire que peut-être ses raisons n'ont pas raison, qu'un adversaire immédiat a plus de raisons que lui. Il fait amende honorable, se tourne vers autre chose comme on passe dans la nuit d'un sommeil d'apocalypse au doux rêve d'oreiller, et tout ce qui ne va pas continue de mal aller.
Un deuxième ?
Oui, un deuxième, bien sûr.
Bon, c'est vraiment dans l'ordre. Hein. Dans l'ordre où j'avais mis des petits trucs.
Le petit moi a longtemps espéré le grand soir qui jamais ne vint. Il a fallu se contenter des levées du petit matin. Des routines de chaque jour, du train-train, du pain quotidien, des petites tranches d'amour, de l'autobus à heure fixe, autant d'aller que de retour, et des stations dans les bars fixes quand la semaine a fait son tour. Il a fallu se concentrer sur les révoltes quotidiennes. Ça n'entretient pas une haine, juste un petit regard frustré sur les occasions qui passèrent, comme des robes à volant qu'un léger vent soulève lent sur un jeu de jambes en jachère. La jeune fille qui s'éloigne loin de ta vie martyrisée, c'est un grand soir, tout irisé de cette promesse qui soigne. Il y en eut des jeunes filles, mais sans coïncidence au grand soir, et le petit moi perd espoir. Il est mignon, le petit moi.
Merci Antoine Simon. Je voulais vous poser la question, Isabelle Alentour, justement sur les mots, les jeux de mots, sur quel, le regard d'une spécialiste hospitalière sur les lapsus, sur les jeux de mots, sur ce que les mots disent à regret, peut-être même. Ce que les gens disent en prononcent sans avoir voulu le dire.
Oui, bon, on dit que ça fait partie, les lapsus par exemple, ça fait partie des formations de l'inconscient, comme les actes manqués, comme les rêves, c'est-à-dire que ça nous indique, en parlant avec le patient, quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Mais moi, je dirais plutôt que, en ce qui me concerne, j'ai écrit très tard. Mais c'est parce que, effectivement, mon oreille était habituée à cette écoute-là fine sur le langage, sur la langue de chaque patient, sur les mots récurrents, sur les images, sur les silences, sur tout ce jeu de langage. rétrospectivement, comme ça, je comprends que si je suis venue à l'écriture poétique, c'est grâce à ça. Et je pense pas que... en tout cas, je suis pas devenue romancière, quoi. Et c'est effectivement, je pense, une des raisons, parce que c'est très proche de la poésie, en fait. Puisque les poètes travaillent sur la langue, jouent avec le langage, le distordent, le travaillent en permanence. Donc voilà, je crois que c'est, dans mon cas, c'est les raisons pour lesquelles j'en suis venue à la poésie, en écrivant.
Antoine Simon.
Oui, le jeu de mots est très important. Effectivement, il y a même un livre de Freud sur le jeu de mots, d'ailleurs, qui est édifiant. Je l'ai lu il y a si longtemps qu'il ne m'en reste absolument rien, d'ailleurs. Ou du moins, peut-être qu'il me reste quelque chose, mais tellement enfoui profondément que ce n'est pas du tout la conscience. Mais en tout cas, oui, le jeu de mots, le fait est que ça vient tout seul, hein, le jeu de mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Ou alors, c'est raté. Hein. Et moi, il y a beaucoup de jeux de mots dans mon écriture, parce que ça fait partie de la polysémie des mots aussi, le jeu sur le mot. Tous les mots sont polysémiques. J'ai été très influencé par Guillaume Apollinaire, qui ne met jamais de ponctuation dans ses textes, et je n'ai jamais mis de ponctuation dans mes textes poétiques. Et je laisse à celui qui dit, au lecteur, le soin, justement, de resituer, de reformer la phrase comme il le veut, finalement. Parce que dans une phrase en ponctuation, c'est vrai qu'on peut faire des accords un peu comme on veut, d'un côté, de l'autre, souvent. Et je trouve que c'est une ouverture. Voilà, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, disait Marcel Duchamp.
Le lecteur qui écrit son poème, voilà, à partir de votre travail.
Exactement, exactement.
Et comment les lecteurs, les lectrices ou les auditeurs, auditrices reçoivent vos mots, reçoivent vos textes?
Il faut leur demander. les auditeurs sont là, justement. Comment est-ce que vous recevez les textes de notre charmante amie?
Moi, les gens viennent me dire souvent, ça me touche. Ça, j'ai retrouvé quelque chose de familier dans ce que vous dites, dans la manière de le dire. Je pense que c'est un peu le cas pour chaque poète, poétesse. Il y a quelque chose de fin qui passe. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose de ta poésie qui vient et qui me touche.
Non, moi, personne ne me dit jamais rien.
Je viens de le dire.
Et d'ailleurs, je trouve que ce que j'écris, c'est nul en plus. Donc, je dis ça juste pour vous faire réagir.
Ce que je remarque, c'est dans le public de Sète, par exemple, souvent, vous venez avec des carnets, vous écrivez des phrases, vous écrivez des moments, voilà, des phrases, des choses qui ont été dites ou quelque chose que les poètes présents sur scène vous ont inspiré. Voilà, c'est quelque chose que je remarque ici, à Sète, en tout cas.
Moi, je n'ai pas fait attention à ça, mais oui, c'est possible. Oui, mais...
Moi, je ne l'ai vu pas plus tard que ce matin, ouais, dans une lecture. C'est vrai, ouais, en effet.
Ah non, le public n'a pas droit.
Alors, dans le public, vous vous appelez votre prénom, s'il vous plaît.
Clara. J'apprécie l'humour et la légèreté dans la poésie d'Antoine Simon.
Merci. Enfin, je suis sauvé. Ça y est, je peux mourir.
Merci. Et merci Isabelle Alentour. Merci Antoine Simon.
Merci à toi.
Alors,
merci à vous.
Merci Artyom Geramian à l'accordéon. On peut. Je vais juste avant d'écouter encore Artyom, si vous souhaitez poursuivre, rappeler. Alors que vous, Antoine Simon, on vous retrouve tout à l'heure à 5h au Crac avec un poète, Capitaine Alexandre, de son surnom.
Si certains l'ignorent, Capitaine Alexandre, c'était le nom de guerre de René Char.
Vos ouvrages sont publiés notamment à La Rumeur Libre, donc aux éditions de La Rumeur Libre. C'est un éditeur qui est présent sur la place du Pouffre aujourd'hui et puis toute la semaine. Isabelle Alentour, vos ouvrages sont disponibles également au Village du Livre, aux éditions La Boucherie Littéraire et La Tête à l'envers.
Et aussi chez Lanskin.
Chez Lanskin, Louise.
Louise. Voilà.
Les éditeurs singuliers, pardon.
Les éditions belges qui sont également présentes sous cette appellation avec plusieurs éditions.
Et puis, il y a un stand du festival qui regroupe les ouvrages étant été publiés chez des éditeurs qui ne sont pas présents au festival. Donc, vous trouvez ce stand avec pas mal de choses présentées.
Merci beaucoup Isabelle Alentour, merci beaucoup Antoine Simon.
Merci à vous.
C'était le plateau radio Poésie à 7 voix vives. Et on termine avec Artiom Geramian à l'accordéon.
Poétique. Au festival Voix Vive à 7 heures.